évaluation normative, et qu'est-ce que ça pourrait justifier en termes d'évaluation normative de nos actions, de nos assertions, de nos croyances, etc. Et donc en fait, je vais me concentrer principalement sur l'action, dans ce que je vais dire, et ça va prendre la forme finalement d'un essai d'interprétation de ce que dit Williamson, de la manière dont Williamson utilise ce principe d'antiluminosité pour défendre sa position concernant le fait que la connaissance est suffisante pour l'action rationnelle. Et donc, finalement, ça prendra la forme d'une critique, d'accord, de la position de Williamson, que je trouve pas totalement suffisante, d'accord. Et j'espère, au passage, dégager un petit peu, finalement, des idées, quelques idées sur qu'est-ce que pourrait être, justement, quelles conséquences on devrait tirer d'un point de vue normatif du fait que le principe d'antiluminosité est valide, d'accord. Donc, si on l'admet, qu'est-ce qu'on devrait en tirer comme conséquence. Donc, la question que je vais essayer de travailler aujourd'hui, donc, c'est... étant donné le principe d'antiluminosité, finalement, étant donné le fait qu'on l'accepte, est-ce qu'on peut toujours maintenir que la connaissance est toujours suffisante pour l'action rationnelle ? D'accord ? Alors, l'idée selon laquelle la connaissance est toujours suffisante pour l'action rationnelle, c'est-à-dire, ou pour traiter quelque chose comme une raison d'agir, donc c'est une thèse qui est défendue assez largement aujourd'hui. Donc l'idée est assez simple, c'est que si, par exemple, je sais... qu'il pleut, d'accord, eh ben, il semble qu'il est rationnel pour moi de traiter la proposition « il pleut » comme une prémisse dans mon raisonnement pratique, c'est-à-dire il est rationnel pour moi de faire ce que je devrais faire, étant donné qu'il est le cas qu'il pleut, par exemple, prendre un parapluie ou ce genre de choses. Donc voilà, donc l'idée de la suffisance de la connaissance pour l'action rationnelle, c'est l'idée de dire, quand on sait quelque chose, on est dans une position épistémique suffisante, d'accord, pour que notre action, sur la base de cette prémisse, soit rationalisée. Donc je le formule de cette manière, si S c'est que P, alors la position épistémique de S à l'égard de P est assez bonne pour agir rationnellement sur P. Alors contre la suffisance de la connaissance, un certain nombre de philosophes ont proposé des cas où le sujet semble savoir que P, mais n'être pas en mesure d'agir sur P. Donc j'ai proposé les cas traditionnels qui sont extrêmement connus, hein, qui opposent donc un cas à faible enjeu et un cas à fort enjeu, d'accord, qui semble suggérer, dans une certaine interprétation de ces cas en tout cas, que la connaissance n'est pas toujours suffisante pour l'action rationnelle. Donc dans un cas à faible enjeu, Pierre et sa femme doivent déposer un chèque à la banque, ils préfèrent en général déposer leur chèque le plus tôt possible, ils passent devant la banque vendredi mais la file d'attente est très longue, et ils n'ont pas envie de perdre une heure. Pierre dit à sa femme « revenons demain ». Sa femme lui répond « mais toutes les banques ne sont pas ouvertes le samedi matin, est-ce que tu sais que celle-là est ouverte ?» Pierre répond « oui je sais, j'y suis allé samedi dernier, de fait la banque est ouverte samedi matin ». Donc les intuitions qui sont censées être générées par ce cas, c'est que Pierre sait que la banque est ouverte le lendemain, puisqu'il a formé sa croyance sur une base suffisamment fiable, la mémoire de ce qu'il a vu le samedi d'avant, etc. Maintenant, si on augmente les enjeux, donc le cas est similaire, Pierre et sa femme doivent absolument déposer leur chèque, ils passent devant la banque vendredi, mais la file d'attente est très longue. Hein, s'ils n'ont pas déposé le chèque avant la fin du week-end, leur maison sera saisie. Donc Pierre dit à sa femme « revenons demain, je sais que la banque est ouverte, j'y suis allé samedi dernier ». Sa femme lui répond « mais une banque peut changer ses jours et horaires d'ouverture. Est-ce que tu sais vraiment que la banque est ouverte demain ?» Et Pierre répond « non, je ne sais pas, tu as raison, je vais vérifier » ou quelque chose comme ça. Donc là, on a selon la littérature, on aurait deux intuitions fondamentales, que Pierre ne sait pas que la banque est ouverte dans ce cas, mais également... qu'il n'est pas, ou en tout cas qu'il est d'une certaine manière approprié pour lui de dire qu'il ne sait pas, hein, mais également qu'il n'est pas rationnel pour lui d'agir sur la proposition « la banque est ouverte demain ». Autrement dit, ce qu'il semble rationnel pour Pierre de faire dans le cas à fort enjeu, c'est simplement d'attendre une heure pour déposer son chèque et de ne pas prendre le risque, finalement, de revenir le lendemain alors que la banque sera fermée le lendemain. Donc ici, je ne vais pas m'intéresser à ce qu'il est approprié pour Pierre de dire dans ce genre de cas, je ne sais pas, ou ce genre de choses. Je vais juste m'intéresser à la question de savoir s'il est approprié pour lui donc, d'agir sur la proposition, de la prendre pour acquise. Et donc, une des manières d'interpréter ces cas dans la littérature consiste à dire que finalement, dans le cas à faible enjeu, Pierre sait, dans le cas à fort enjeu, il ne sait pas. D'accord. Alors, et la raison pour laquelle on pourrait dire ça, c'est simplement de se baser sur la suffisance de la connaissance pour l'action rationnelle. Donc dans le cas à faible enjeu, c'est suffisant pour Pierre, les données de Pierre sont suffisantes pour qu'il agisse sur la proposition, il sait la proposition en question. Dans le cas à fort enjeu, il n'est pas rationnel pour lui d'agir sur cette proposition, donc si Cassuf est vrai, il ne sait pas. D'accord, tout simplement. Donc ça, c'est une manière, on va dire, non orthodoxe hein, d'aborder le problème, et selon laquelle la connaissance, finalement, varierait avec les enjeux. Je vais laisser cette option de côté. Une autre manière, évidemment, d'interpréter ces cas, si on veut maintenir une conception plus traditionnelle de la connaissance, selon laquelle la connaissance dépend uniquement de nos données et pas, évidemment, du coup de l'erreur, eh bien, c'est de dire que, finalement, Kassuf est faux. D'accord ? Donc, la plupart des philosophes qui maintiennent une conception plus traditionnelle de la connaissance y rejettent l'idée que la connaissance est toujours suffisante. Ce sera d'ailleurs l'option que je prendrai à la fin. Alors, il y a une autre option qui a été explorée par Williamson, et c'est celle que je vais regarder aujourd'hui, qui consiste à maintenir la suffisance de la connaissance et en même temps consistant à maintenir la conception traditionnelle de la connaissance. Et basiquement, l'idée serait de dire que dans le cas à fort enjeu, le sujet sait la proposition. Comme Kassuf est vrai, il est rationnel pour le sujet d'agir sur la proposition, mais pour une raison justement qu'on va essayer de voir, le sujet ne devrait pas agir sur la proposition. D'accord ? Donc la réponse va faire appel au principe d'antiluminosité et l'idée qu'en fait le sujet, dans le cas à fort enjeu, sait la proposition, mais il ne sait pas qu'il la sait. D'accord ? Donc le sujet est rationnel d'agir, mais comme il ne sait pas que c'est rationnel d'agir, en vertu de la vérité du principe d'antiluminosité, que je vais exposer rapidement, alors d'une certaine manière, il a raison de ne pas revenir. Alors, donc, mon plan pour examiner cette proposition sera le suivant. Donc, tout d'abord, je vais clarifier donc, les différentes suppositions que l'approche de Williamson suppose concernant les cas. Ensuite, je vais considérer l'idée que l'opacité de la rationalité, donc le fait qu'on peut savoir quelque chose, ou qu'il peut être rationnel de faire quelque chose, bien qu'on ne soit pas en position de le savoir. Donc, je vais considérer l'idée que ça pourrait nous donner des excuses épistémiques pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire. Je montrerai que ce n'est pas comme ça qu'on peut interpréter le cas. Ensuite, dans la section 4, donc, je présenterai l'idée selon laquelle il serait d'une certaine manière mauvais de ne pas être en position de savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle à faire, et que peut-être ce genre de principe explique notre jugement dans les cas à fort enjeu. J'essaierai de voir comment on peut justifier cette idée, peut-être en appelant à un devoir de suivre les normes de la rationalité ou quelque chose comme ça, peut-être ce devoir de savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle. Explique notre intuition dans ces cas. Je vous montrerai donc que c'est pas non plus satisfaisant finalement pour expliquer les cas en question. Puis à la fin, j'essaierai de regarder un petit peu d'autres manières dont on pourrait imaginer qu'il serait bon ou meilleur ou pas mauvais en tout cas, ou de savoir que ce que l'on fait et la chose rationnelle est à faire. Mais je montrerai qu'à chaque fois finalement, on échoue d'une certaine manière à expliquer l'asymétrie entre le cas à faible enjeu et le cas à fort enjeu. Donc ce que je voudrais expliquer, c'est que, grosso modo, faire appel au principe d'antiluminosité ne suffit pas, finalement, à expliquer la différence entre les deux cas. Donc commençons par expliquer un peu le principe d'antiluminosité et la stratégie que Williamson déploie tout d'abord. Donc le principe d'antiluminosité nous dit la chose suivante: il n'y a pas de condition non triviale C, telle que si C est le cas, alors S sait ou est en position de savoir que C est le cas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ici, je vais admettre ce principe, même s'il est quand même contesté. Donc pour toute, même pour nos états mentaux internes, par exemple la douleur, je peux très bien avoir une sensation de douleur, mais ne pas être en position de savoir que j'ai de la douleur, quelque chose comme ça. Donc c'est un principe, on va dire, très fort en faveur d'une forme d'externalisme généralisé. Alors, une conséquence de ce principe, évidemment, c'est que ce que l'on doit faire, de la même manière, n'est pas lumineux. Ça veut dire, il se peut que je doive faire A, que je doive prendre mon parapluie, mais, par exemple parce qu'il pleut, mais je ne sais pas que c'est ce que je dois faire. D'accord ? Ce type de situation, si le principe d'antiluminosité est correct, ce type de situation arrive, peu importe la théorie normative que l'on adopte. C'est-à-dire que si on adopte une théorie normative, même de type internaliste, par exemple, qui nous dit que ce qu'on doit faire est déterminé par ce qu'on croit, d'accord ? Si le principe d'antiluminosité est correct, alors il y aura quand même des cas où on doit faire quelque chose sans savoir qu'on doit le faire, par exemple si on ne sait pas qu'on le croit. Hein ? Donc je prends deux cas, prenons un exemple externaliste. Supposons que S doit aider John, car John a objectivement besoin d'aide. Donc là, on a une conception objectiviste, on va dire, de ce que l'on doit faire. Et supposons que S ne sait pas qu'il doit aider John, d'accord ? Parce qu'il ne sait pas que John a besoin d'aide. Donc ça, c'est un cas où on applique le principe d'antiluminosité à un cas d'une théorie objectiviste. Maintenant, sur une théorie internaliste, ça donnerait la chose suivante. Supposons que S doit aider John car S a un fort degré de croyance, d'accord, que John a besoin d'aide. Il est tout à fait possible, si le principe d'antiluminosité est valable, que S ne sait pas qu'il a un fort degré de croyance et qu'il doit aider John. D'accord ? Donc si le principe d'antiluminosité est correct, la situation arrivera quelle que soit la théorie normative qu'on adopte, mais ça arrivera aussi, peu importe que l'on parle de devoir ou de rationalité. D'accord ? Donc je vais formuler en termes de rationalité, et je vais appeler ça l'opacité de la rationalité, finalement. Il peut être rationnel pour S de faire A, et S peut faire A rationnellement, même si S ne sait pas, ou n'est pas en position de savoir, que A est la chose rationnelle à faire, ou ne sait pas qu'il fait A rationnellement. Donc là, je formule l'opacité de la rationalité aussi bien en termes de rationalité ex ante, c'est-à-dire qui permettrait de déterminer ce qu'il est rationnel pour l'agent de faire, mais aussi en termes de les raisons pour lesquelles l'agent agit. Si le principe d'antiluminosité est correct, alors nos motifs ne nous sont pas non plus toujours lumineux. Hein. Parfois, on peut se tromper ou on peut ne pas être en position de savoir la raison pour laquelle on a fait la chose en question. D'accord ? Alors voilà, donc après, bon, le principe de luminosité suppose aussi que, que le principe caca est faux, c'est-à-dire il est faux que si je sais que P, alors je sais que je sais que P, ou que je suis en position de savoir que P. Si donc on adopte une théorie de la rationalité basée sur la connaissance, évidemment, il va suivre que la rationalité n'est pas lumineuse, mais on voit bien que c'est pas lié au fait d'adopter une théorie basée sur la connaissance. Hein. C'est lié plus généralement au fait d'adopter une théorie, d'adopter le principe d'antiluminosité. Alors donc, admettons la possibilité de ces cas où le sujet doit rationnellement faire quelque chose, mais n'est pas en position de savoir qu'il doit le faire. Alors, selon un certain nombre d'auteurs, notamment Ostern et Sterney, que je cite ici, et Williamson est d'accord avec eux, dans ces cas, disent-ils, on devrait noter que nos intuitions sont un petit peu brumeuses, hein, ou hésitantes, hein, d'autres disent. Donc, reprenons l'exemple de Jean ci-dessus. Donc, Jean a besoin d'aide. S ne sait pas que Jean a besoin d'aide. Et supposons donc deux cas. S aide Jean. D'accord ? Bah, c'est un peu brumeux. Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien, de mal ? Comment on évalue ? Bon, on a l'impression qu'il n'est pas clair exactement la situation. Il y a un aspect positif à ce qu'il a fait. Jean avait besoin d'aide. D'un autre côté, le sujet ne savait pas que Jean avait besoin d'aide. Donc il y a une dimension négative dans l'évaluation. Donc c'est brumeux en ce sens que notre évaluation est ambivalente. D'accord ? Alors, ce caractère brumeux du jugement, effectivement, donc, suggère l'idée suivante, que l'opacité de la rationalité, c'est-à-dire le fait qu'on n'est parfois pas en position de savoir que ce qu'on fait est rationnel, ça peut affecter nos jugements normatifs, d'accord ? En créant des jugements ambivalents. Alors selon l'approche de Williamson, en fait, c'est ça qui va être en jeu dans les cas à fort enjeu. Hein, et donc c'est ce que j'appelle bonne explication, donc c'est l'idée de Williamson. Dans les cas à fort enjeu, c'est l'opacité de la rationalité qui explique nos jugements selon lesquels la connaissance est insuffisante pour agir. Donc on aurait dans les cas à fort enjeu quelque chose de brumeux, hein, du même type finalement que l'exemple que je vous ai décrit tout à l'heure avec un sujet qui doit aider quelqu'un d'autre mais qui ne sait pas qu'il doit l'aider. Alors, l'explication de Williamson repose sur l'ensemble des propositions suivantes, alors que j'ai formulées donc là. Donc, tout d'abord, on admet que le sujet S, dans la situation à fort enjeu, hein, on est dans le cas donc numéro 2, Pierre et sa femme, est très important pour eux qu'ils déposent le chèque, hein, et donc, selon l'assomption dite puriste, ou traditionnel sur la connaissance, on admet que le sujet sait dans le cas à fort enjeu. Donc le sujet dans la situation en fort enjeu connaît la proposition en question. D'accord ? Deuxième point, puisque Williamson adopte la suffisance de la connaissance, d'accord, il est amené à adopter la seconde supposition, si S sait que P, alors il est épistémiquement rationnel pour le sujet d'agir sur P. D'accord ? Donc la conséquence de ces deux suppositions, c'est qu'il est épistémiquement rationnel pour le sujet à fort enjeu d'agir sur la proposition en question. Où S est en bonne position épistémique pour agir rationnellement sur la proposition. Maintenant, on adopte l'idée que la rationalité est opaque, mais il est possible qu'il soit rationnel pour un sujet de faire A et que S fasse A rationnellement, même si S ne sait pas qu'il est rationnel pour lui de le faire, ou bien qu'il ne sait pas qu'il le fait rationnellement. Donc, on admet ça sur la base du principe d'antiluminosité. On admet ensuite que le sujet, alors ça c'est une supposition qui a été en fait, finalement c'est le point sur lequel Williamson a été le plus critiqué, hein, dans son approche, c'est le sujet à fort enjeu ne sait pas qu'il sait la proposition en question. Donc Jessica Brown par exemple rejette finalement la démarche de Williamson en disant simplement on n'a aucune raison de penser que le sujet d'un fort enjeu ne sait pas qu'il sait, d'accord ? Il y a également d'autres cas comme un chirurgien qui a examiné un patient le matin et qui a décidé de l'opérer du rein gauche parce que c'est celui qui était malade et qui, au moment de passer au bloc opératoire, vérifie est-ce que c'est bien le rein gauche qui doit opérer. Et Jessica Brown nous dit, là, il semble clair que le chirurgien sait qu'il doit opérer le rein gauche. Néanmoins, étant donné les enjeux, il est rationnel pour lui de vérifier. D'accord ? Donc, sur ce genre de cas, prenons le cas du chirurgien. Le chirurgien pourrait très bien, selon Jessica Blum, savoir qu'il sait. Oui, je sais bien que je le sais, mais quand même, je devrais vérifier étant donné les enjeux. Donc, on pourrait fabriquer de toute manière toujours des cas où le sujet sait qu'il sait. D'accord ? Alors, je vais laisser cette critique de côté parce que je pense que Williamson, en fait, a les ressources d'une certaine manière pour répondre à ce genre de cas. Donc, admettons cela. Admettons également que le sujet à fort enjeu ne sait pas qu'il est épistémiquement rationnel pour lui d'agir sur la proposition. Admettons que si ce qu'il est rationnel pourrait se faire est opaque, alors cela affecte notre évaluation normative. Dans le cas à fort enjeu, notre évaluation normative est affectée. Et c'est là le point de Williamson. Dans le cas à fort enjeu, c'est l'opacité de la rationalité, ou le caractère non lumineux de ce qu'il est rationnel pour le sujet de faire dans le cas en question, qui explique, selon notre intuition, que la connaissance sera insuffisante pour agir. Alors, donc moi c'est ce point qui va m'intéresser, c'est comment on doit comprendre l'idée que l'opacité de la rationalité peut affecter nos jugements, et est-ce que la manière dont ça affecte nos jugements, ça permet effectivement de donner une bonne explication des cas. Donc une première manière, qui est la manière en général développée par la plupart des gens quand ils font appel au principe de luminosité, c'est en fait de dire qu'en fait on peut avoir des excuses, qu'on va appeler des excuses épistémiques, pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire. Donc l'idée, c'est que parfois il est rationnel de faire A, mais on n'est pas en position de savoir que c'est le cas, donc on ne va pas le faire, mais on va être excusé. Donc cette distinction entre excuse et justification, et plus précisément excuse épistémique, puisqu'elle est liée finalement à notre position épistémique, au fait que ce qu'il est rationnel de faire n'est pas lumineux, donc cette distinction serait finalement la première distinction à faire à partir du moment où on adopte ce principe d'antiluminosité. Alors, si l'on regarde, par exemple, le cas qui est censé être brumeux, hein, que Austin et Stanley, le genre de cas dont Austin et Stanley parle, donc je dois faire A, je dois aider John, mais je ne sais pas que je dois l'aider, supposons que je ne l'aide pas. L'idée, c'est que l'évaluation est ambivalente, donc je ne l'aide pas d'une certaine manière, je n'ai pas fait ce que je devais faire, ou je n'ai pas fait ce qui devait être fait, d'accord ? En même temps, j'ai une excuse parce que je ne pouvais pas le savoir, ou je n'avais pas de raison de penser qu'il fallait que je le fasse. D'un autre côté, si j'aide John qui a besoin d'aide sans savoir qu'il avait besoin d'aide, d'un côté c'est positif, j'ai fait ce qui devait être fait, mais c'est aussi d'un côté négatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je suis pas louable en fait d'avoir fait pour l'avoir fait. Donc l'idée c'est qu'il y aurait une évaluation de l'action et une évaluation de l'agent, d'accord, et qu'on pourrait distinguer, donc on devrait distinguer est-ce que l'action est celle qui devait être faite et est-ce que l'agent l'a fait pour des bonnes raisons ou quelque chose de cet ordre. Donc, si c'est ça la distinction auquel on doit faire appel, elle est relativement claire finalement. Donc voilà. Et alors, donc un certain nombre de citations ici, donc ça qui montre que beaucoup de philosophes donc acceptent cette idée. On peut avoir des manquements excusables à une norme, d'accord. Donc en général, les gens qui nous disent, qui proposent une norme, disons il est rationnel de faire A si C, quelqu'un va venir avec un contre-exemple et l'autre va pouvoir dire, mais oui, mais là il y avait une violation excusable de la norme. Donc c'est pour ça qu'on a quand même une évaluation positive dans la situation. Donc la distinction elle prend différentes formes. Donc De Rose par exemple distingue entre conformité primaire à la norme. Donc, est-ce qu'on a fait ce que la norme recommandait, et conformité secondaire, est-ce qu'on avait des raisons de croire qu'on se conformait à la norme, d'accord. Williamson utilise la même distinction dans Knowledge and its Limits, et il parle de reasonableness, donc de raisonnabilité, et de warrant. Donc il dit, il y a des cas où on fait la chose qui est warranted, qui est justifiée, on va le traduire comme ça, mais ce n'était pas raisonnable, en fait, parce qu'on n'avait pas de raison de croire que c'était justifié. Et puis il y a des cas où on fait quelque chose raisonnablement, hein, on avait des raisons de le faire d'une certaine manière, mais c'était pas la chose warranted ou conforme à la norme. Donc l'idée, c'est qu'il y a un double standard, on va dire, par rapport à la norme. Alors on va prendre la terminologie de De Rose et parler de conformité primaire et conformité secondaire. D'accord. Donc ici, si on tire un petit peu ce fil, donc on va le formuler de la manière suivante. Le fait que la rationalité est opaque peut fournir des excuses épistémiques à des agents pour ne pas faire ce qu'il est rationnel pour eux de faire. Donc voilà, ce serait l'idée. Alors, est-ce que cette idée peut nous permettre d'expliquer les cas à force. Alors, juste ici, j'aimerais insister sur le fait que si on admet que la rationalité, si on rejette l'idée que la rationalité n'est pas lumineuse, c'est-à-dire si on admet que la rationalité est lumineuse, la notion d'épistémique ne peut pas exister. Si on admet que on est toujours en position de savoir ce qu'il est rationnel de faire, alors il n'y aura pas de cas où il est rationnel de faire A, ou il est rationnel de faire A, et on a des raisons de penser qu'il n'est pas rationnel de faire A. Parce que si on est en position de le savoir, ça veut dire qu'on a toujours des raisons de croire que c'est le cas. D'accord ? Donc l'idée, c'est que le principe, en rejetant le principe d'antiluminosité, on rejette la notion même d'excuse épistémique. D'accord ? Alors, le problème, est-ce que cette distinction entre excuse épistémique et justification nous permet de comprendre les cas ? Donc si c'était le cas, on devrait donc admettre que le sujet dans le fort enjeu n'est pas primairement conforme à la norme. Il aurait dû en fait revenir le lendemain sans vérifier, mais il est secondairement approprié parce qu'il avait des raisons de penser que ce n'était pas la chose rationnelle à faire. Le gros problème de cette approche, c'est que le sujet à faible enjeu est exactement dans la même situation épistémique que le sujet à fort enjeu. Ils sont, par supposition des cas, supposés avoir exactement les mêmes données. D'accord ? Donc, si on est puriste sur les raisons de croire, d'accord ? Le sujet a fort enjeu à une excuse épistémique pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire, si et seulement si le sujet a faible enjeu à une excuse épistémique pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire. Parce que ce qu'il est rationnel pour eux de croire est identique, étant donné, si on adopte le purisme ou cette conception traditionnelle de la connaissance que Williamson veut défendre, leurs croyances sont fixées, leurs données fixent exactement les mêmes croyances sur toutes les mêmes choses. D'accord ? Donc si on dit il y a une excuse épistémique pour le sujet à fort enjeu à ne pas faire ce qu'il est pour lui rationnel de faire, alors on va dire, d'accord, bah donc le sujet à faible enjeu devrait aussi ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire, et devrait avoir une excuse pour ne pas le faire. D'accord ? Or, notre intuition dans les cas n'est pas du tout celle-là. Notre intuition dans les cas, c'est que dans le cas à faible enjeu, le sujet devrait juste revenir le lendemain sans vérifier, qu'il le fait rationnellement. S'il nous donne sa raison parce que c'est ouvertement, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci dans l'explication. Et on a aussi l'impression que s'il ne le fait pas, il est tatillon. Voire même, il est trop prudent ou quelque chose comme ça. On le sait que c'est ouvert demain, tu y as été, etc. Donc on n'a pas du tout l'impression que le sujet à faible enjeu aura une excuse épistémique pour ne pas faire ce qu'il est rationnel pour lui de faire. Si on est puriste, d'accord, on ne peut pas accepter l'idée que les excuses épistémiques varient avec les enjeux. D'accord ? Donc si on est un puriste, puisque les excuses épistémiques, je le répète, sont définies par le fait de ce qu'il est raisonnable de croire à propos de ce qu'on doit faire. D'accord ? Or, ce qu'il est raisonnable de croire à propos de ce qu'on doit faire, j'imagine, est fixé par les évidences. Si on a les mêmes évidences, on a les mêmes raisons de croire que l'on doit faire ceci ou cela. En ce sens, la notion d'épistémique, telle qu'elle est en tout cas traditionnellement ici appliquée, d'accord, doit être une notion insensible aux enjeux si on est un traditionnaliste, j'ai envie de dire, sur les raisons de croire. Alors, donc, éliminons, j'ai envie de dire, cette distinction entre excuse et justification. En se disant, oui, c'est une bonne distinction à faire, la notion d'excuse épistémique est importante et il faut la conserver si on adopte le principe d'antiluminosité. Si on le rejette, par contre, la notion d'excuse épistémique peut ne plus avoir de sens concernant. Autrement dit, il peut ne plus avoir de sens qu'on ait des excuses épistémiques pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire, d'accord, si on admet que la rationalité est lumineuse. Donc admettons cette distinction, mais cette distinction de toute manière ne nous permet pas d'expliquer nos intuitions dans ces cas. Donc ce que j'aimerais dans un second temps, c'est essayer. Je ne pense pas que Williamson fasse appel à cette notion d'excuse épistémique. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, dans son texte, ce n'est pas toujours très clair. Donc, je vais essayer de voir s'il n'a pas autre chose en tête lorsqu'il fait appel au principe d'antiluminosité pour expliquer les cas. Ce qu'il écrit donc, dans son article de 2005, c'est la chose suivante. Suppose qu'un agent repose sur une prémisse Q dans un raisonnement pratique, par ailleurs, totalement parfait. D'accord ? Et dans son contexte, Q est en effet approprié. Donc le sujet agit sur une bonne prémisse. Mais le sujet n'est pas en position de savoir que c'est approprié. Alors notre évaluation de son raisonnement devrait être ambivalent. Il est bon qu'il ait utilisé une bonne prémisse et faux qu'il ait utilisé une et mauvais qu'il ait utilisé, qu'il ne soit pas en position de savoir que c'est une bonne prémisse. Donc je vais formuler cette idée par RNOR, valeur négative. Donc, rôle normatif de l'opacité de la rationalité, c'est de nous donner des jugements négatifs. C'est un peu l'idée que j'ai trouvée. Alors, l'idée, ce serait, il est mauvais de ne pas être en position de savoir que ce qu'on fait rationnellement est ce qu'il est rationnel de faire. D'accord ? Puisque, encore une fois, Comme il l'écrit, il est mauvais de ne pas savoir que la prémisse est appropriée. D'accord ? Donc si par agir sur une prémisse appropriée, on entend agir rationnellement, hein, je vais supposer ici que ce soit le cas, donc l'idée c'est juste qu'il est mauvais de ne pas être en position de savoir que ce qu'on fait rationnellement est ce qu'il est rationnel de faire. Alors, la thèse de Williamson, cette position est assumée, quels que soient les enjeux, d'accord ? C'est une thèse générale. Williamson suggère que les enjeux peuvent augmenter la valeur négative, hein, du fait de ne pas être en position de savoir. Il écrit par exemple, puisque les enjeux sont plus forts pour High, donc High c'est le sujet dans qui est dans la situation à fort enjeu, que pour Low, donc Low c'est le sujet qui est dans la situation à faible enjeu, le manque de second order knowledge, donc le manque de connaissances d'ordre supérieur, ou le fait de ne pas être en position de savoir finalement que ce qu'il fait rationnel, est plus grave pour High que pour Low. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'en utilisant une terminologie qu'on trouve chez Dancy, c'est que les forts enjeux peuvent jouer comme des intensificateurs, on va dire, de la valeur négative. D'accord ? Et Williamson, dans le même papier, suggère également que les enjeux peuvent affecter le niveau d'itération de connaissance. C'est-à-dire, est-ce que je dois simplement savoir que je sais, etc. Donc ici, on pourrait, pour utiliser pareil un vocabulaire qu'on trouve en philosophie normative, on pourrait dire que les enjeux sont des activateurs, ou des enablers, d'une norme avec tel ou tel niveau d'itération. C'est-à-dire, les forts enjeux vont nous donner le niveau d'itération de connaissance dont on a besoin. D'accord ? Alors, ces deux thèses-là, en fait, sur le fait que les forts enjeux peuvent jouer comme des intensificateurs ou des activateurs d'une norme avec un niveau de connaissance à un certain niveau, qui permettent finalement de répondre à l'objection de Jessica Brown. Parce que la question, c'est pas, supposons même que dans les deux cas, les sujets savent qu'ils savent, Williamson pourra toujours dire, oui, mais c'est plus grave, oui, mais dans un cas, il faut qu'ils sachent. D'accord ? Donc, on peut créer la symétrie entre les deux cas juste en adoptant ces deux thèses, soit que l'effort en jeu requiert un niveau de connaissance plus élevé, soit que ça rend plus grave, on va dire, le fait de ne pas satisfaire cette condition. Donc, je formule comme ça, il est mauvais de ne pas être en position de savoir que l'on sait, que ce qu'on fait rationnellement est ce qu'il est rationnel de faire. D'accord ? Donc, quand les enjeux sont faibles, c'est très mauvais, sont forts, c'est très mauvais, quand ils sont faibles, c'est pas très mauvais. Et d'ailleurs, ce que Williamson écrit à un moment dans le papier, c'est que ce serait tatillon de critiquer le sujet à faible enjeu. Donc l'idée, c'est que dans le cas à faible enjeu, il y a aussi quelque chose de mauvais, en fait, que le sujet soit n'est pas en position de savoir, soit n'est pas en position de savoir qu'il sait. C'est d'une certaine manière mauvais, mais vu que les enjeux sont faibles, c'est pas très grave, on va pas le critiquer pour ça. D'accord ? Donc là, on note que c'est quand même pas notre intuition de base. Notre intuition de base n'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais, ne serait-ce que minimalement mauvais, hein, dans le cas faible enjeu. Notre intuition, c'est que tout se déroule parfaitement, le sujet est parfaitement rationnel, il a totalement raison d'agir sur cette pensée. Donc la question que je me posais, c'est, ok, comment est-ce qu'on peut motiver cette idée qu'il y a toujours quelque chose de mauvais dans le fait de ne pas être en position de savoir, que ce qu'on fait est la chose rationnelle, d'accord ? Cette thèse ne me paraissait pas plausible, en fait. Donc je me suis dit, peut-être que Williamson a en tête un principe du genre suivant, que j'appelle OKR, tu dois savoir ce qui est rationnel de faire et ce qu'il est rationnel de faire. D'accord ? Et la question après, je me suis dit, c'est est-ce qu'on peut justifier ce principe et dans quelle mesure ? Donc, je vais être très, très rapide. Donc, on peut distinguer ce principe d'un principe d'être irréprochable, puisque rappelons-nous que les excuses épistémiques sont normalement suffisantes pour qu'on soit sans reproche. Un principe d'irréprochabilité nous demande juste d'avoir des raisons de croire que ce qu'on fait est la chose à faire. Il ne nous demande pas d'être en position de le savoir, hein, bien sûr. Donc, les cas d'excuses épistémiques sont des cas différents, des cas où on n'est pas en position de savoir. Parce qu'évidemment, il y a des cas où on a une excuse épistémique, mais on n'est pas en position de savoir. D'accord ? Parce qu'on est dans un cas de type Gaétier ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un principe très différent. OKR ne nous demande pas d'être irréprochable. Il nous demande, en plus, d'être en position de savoir, d'accord ? Qu'on est rationnel. Donc, l'hypothèse que j'ai tout d'abord envisagée, c'était l'idée que peut-être cela avait à voir avec un devoir de suivre les normes de la rationalité. Et donc le raisonnement serait le suivant, tu dois suivre les normes de la rationalité, on suit une norme seulement si on sait que la norme est respectée, la norme épistémique de la rationalité pratique c'est la connaissance des prémices, donc tu dois savoir si tu sais les prémices, si tu dois savoir si tu sais les prémices, alors tu dois être en position de la savoir, d'accord ? Donc c'est mauvais d'agir sur une prémisse quand on n'est pas en position de la savoir, parce qu'en fait on n'est pas en position de la suivre. Alors il y a deux problèmes à mon avis pour ce raisonnement. Le premier problème c'est que la supposition 2 est trop forte, d'accord ? On peut suivre des normes sans savoir qu'elles sont respectées, d'accord ? Et même peut-être sans savoir sans être en position épistémique de savoir qu'elles sont respectées. D'accord ? Donc, on peut suivre une norme sans savoir qu'elle est respectée. Par exemple, sans avoir formé la croyance, d'accord, qu'elle est respectée. Et ça, ça suffit pour nous dire que, du coup, l'exigence d'être en position de savoir la prémisse, d'accord, ne peut pas être dérivée de l'exigence de savoir la prémisse. Parce que si on a une exigence qu'on doit suivre les normes, et donc on doit les savoir, alors l'exigence, c'est d'avoir formé la croyance, au moins, qu'on les suit. D'accord ? Or, suivre une norme ne suppose pas de la croire. D'accord ? Donc le raisonnement ne peut pas marcher si on a une conception plus faible de suivre une norme. Ensuite, le deuxième problème que je vois, c'est qu'être en position épistémique suffisante envers les différentes considérations, c'est-à-dire qu'il y a déjà un lien, finalement, qui est censé avoir capturé cette idée de suivre la norme à partir de la notion de norme épistémique de l'action. Lorsqu'on dit que la personne est en bonne position épistémique pour agir, en fait, ce qu'on veut dire intuitivement, c'est qu'il suit suffisamment bien, en fait, la norme et les différentes choses qui sont... Donc on a l'impression que c'est redondant d'exiger de... Si on admet que la connaissance est suffisante, ce serait redondant d'exiger qu'on sache qu'on sache. D'accord ? Puisque le fait de savoir que les conditions sont le cas devrait être suffisant pour qu'on soit évalué comme suivant la norme. Donc la deuxième option, qui vient naturellement à l'idée, c'est de se dire que peut-être on a un devoir de suivre le fait qu'on suit la norme. D'accord ? Donc le raisonnement serait le suivant, tu dois suivre le fait que tu suis les normes de la rationalité, on suit le fait qu'on suit les normes de la rationalité seulement si on sait si la norme de la rationalité est respectée, la norme épistémique de la rationalité est la connaissance des prémisses, on doit savoir si on sait les prémisses. Donc, si tu dois savoir si tu sais les prémisses, alors tu dois être en position de savoir les prémisses. Donc, il est mauvais d'agir sur une prémisse rationnelle quand on n'est pas en position de savoir qu'elle est propre. Et alors maintenant, la question qui se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'on devrait suivre le fait qu'on suit les prémisses ? D'accord ? Pourquoi est-ce que... suivre les normes. Pourquoi est-ce que suivre les normes de la rationalité n'est-il pas suffisant ? Pourquoi est-ce qu'on devrait en plus savoir qu'on les suit ? Alors là, j'envisage plusieurs options, d'accord ? Mais on va voir qu'elles ne permettent pas d'expliquer en réalité la différence qu'il y a entre les deux cas. Alors une première option, ce serait de dire qu'en suivant le fait qu'on suit les prémisses, on diminue la marge d'erreur relativement à la proposition cible. En fait, il semble que c'est ça que Williamson est en tête d'une certaine manière. C'est-à-dire on élimine les cas, finalement on n'agit pas rationnellement. D'accord ? Donc le problème, d'une certaine manière, si on agit sur le savoir du savoir, ou si on est en position épistémique de savoir qu'on sait, que P, alors d'une certaine manière, la proposition P est plus sûre. D'accord ? Le problème, c'est que la question de la marge d'erreur est censée avoir déjà été réglée au niveau de la norme épistémique de la rationalité. C'est-à-dire que si la connaissance est supposée être suffisante, alors la question de la marge d'erreur est réglée, c'est suffisant. Donc pourquoi y a-t-il besoin de l'augmenter, cette marge ? Donc ça ne peut pas être simplement l'idée de sécuriser la prémisse, d'un point de vue épistémique. Parce qu'elle est déjà censée être sécurisée par le fait qu'on satisfait la norme épistémique. Donc, par ailleurs, il n'est pas toujours clair qu'une croyance rationnelle sur le fait qu'on a qu'une croyance fiable sur le fait qu'on a une croyance fiable augmente la fiabilité de la première croyance. Donc, si je sais que P, parce que sur la base d'un processus fiable de formation de croyance, que P, ma perception, et puis après je m'interroge, mais est-ce que j'ai vraiment une croyance fiable ? C'est-à-dire, est-ce que je sais que P ? Et là, je me rends compte, oui, mes facultés sont fiables. D'accord ? Donc là, j'acquiers la connaissance que mes facultés sont fiables, j'acquiers une croyance fiable que ma croyance est fiable, mais la fiabilité de ma première croyance n'est pas augmentée par là. Donc il n'est pas clair non plus qu'acquérir des connaissances de second niveau, en fait, augmente notre position épistémique de la bonne manière, j'ai envie de dire, par rapport au cas à fort enjeu. Donc on va éliminer cette option. La deuxième possibilité, ce serait l'idée que j'emprunte à Sousa, cette idée que quand on a le reflective knowledge, il y a un bienfait épistémique, et notamment il parle d'augmenter la compréhension, ou bien d'avoir une meilleure intégration de nos différentes croyances, en particulier de nos différents niveaux. Quelqu'un qui sait que P sans être en position de savoir que P va d'une certaine manière, au niveau de la connaissance animale, donner son assentiment à P, mais du point de vue de sa connaissance réflexive, va d'une certaine manière douter que P. Donc cette personne serait dans une position inconfortable, j'ai envie de dire, et donc d'une certaine manière, il serait mieux de savoir que l'on sait. Alors, pareil, deux problèmes. Cela ne nous explique pas la symétrie entre les deux cas, fort enjeu et faible enjeu, puisque dans les deux cas, évidemment, les sujets sont censés être, dans ce cas-là, en désharmonie cognitive de la même manière. Et puis aussi une manière de résoudre le problème de cette dissonance, on peut dire comme ça, cognitive, ce serait simplement pour le sujet à fort enjeu de ne pas se mettre à réfléchir. D'accord ? Donc je le sais, c'est tout, il y va. Donc c'est pas ça évidemment que Williamson a en tête avec cette idée qu'il serait mauvais de ne pas être en position épistémique de savoir. Alors, on peut ensuite essayer de faire appel à des considérations non plus épistémiques, mais plutôt morales ou éthiques. Alors, un certain nombre de philosophes, par exemple, nous disent que c'est une action est plus notre action, elle est d'une certaine manière, elle révèle plus notre personnalité quand on est capable d'approuver les raisons hein, pour lesquelles elles ont été faites. L'idée, ce serait, comme le dit Grimm, par exemple, que ceux qui exercent « those who know », donc ceux qui savent leurs raisons, donc ceux qui savent, dans le cas de Williamson, font l'exercice d'un genre d'autonomie sur leurs croyances, donc là on pourrait dire sur leurs actions, qui est plus élevé, on va dire, que ceux qui agissent sans réfléchir, d'accord ? Donc, à nouveau ici, ça ne résout pas la symétrie entre les deux cas, puisque l'autonomie, le niveau d'autonomie, dans ce cas-là, pour le sujet à faible enjeu, à fort enjeu, est exactement le même. Dans les deux cas, soit ils sont en mesure d'approuver leurs propres raisons, soit ils ne sont pas en mesure d'approuver leurs propres raisons. Il n'y a pas d'asymétrie à ce niveau-là. Et donc voilà. Enfin, une dernière option, ce serait de renvoyer à l'idée de bonne disposition. Ce serait une bonne disposition... agir rationnellement sans savoir qu'on agit rationnellement, ce serait renforcer une forme de disposition à agir irrationnellement dans les cas qui sont indiscernables des cas où on agit rationnellement, donc dans les cas limites. Il y aurait des cas limites où il est rationnel de faire A, et ces cas où je ne sais pas qu'il est rationnel pour moi de faire A sont indiscernables des cas où il est irrationnel pour moi de faire A. Donc si j'agis sur la base de ma connaissance sans savoir que c'est de la connaissance, Je renforcerai une disposition à agir. Cette disposition pourrait conduire dans certaines situations à quelque chose de catastrophique, les cas où il est effectivement, les cas indiscernables où il est irrationnel, d'accord, d'agir. Le problème à nouveau, c'est que le renforcement de cette disposition, il a lieu aussi bien dans le cas à faible enjeu que dans le cas à fort enjeu, d'accord. C'est pas parce que c'est pas grave de le faire dans le cas à faible enjeu qu'en le faisant, je vais pas quand même renforcer ma disposition. Donc, un deuxième point aussi, c'est que dans le cas à fort enjeu, on pourrait imaginer que le sujet va mourir... rapidement, et donc finalement l'évaluation de sa disposition n'est pas pertinente. Donc, enfin, il y a un problème plus général, je pense, de régression, c'est que si on commence à adopter l'idée qu'il est mauvais de ne pas savoir qu'on sait, alors à mon avis, on est conduit à dire qu'il est mauvais de ne pas savoir qu'on sait, et qu'il est mauvais, etc. Or, si le principe d'antiluminosité est vrai, il n'est jamais le cas qu'on sait. Donc, si le principe d'antiluminosité est vrai, et si Williamson a raison, alors il y a toujours quelque chose de mauvais dans nos actions. D'accord ? À savoir qu'on ne sait pas, qu'on le sait. Donc ceci semble implausible. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je crois que je suis en retard. Ça va ? Je propose, en fait, il me semble beaucoup plus naturel, en fait, de prendre une seconde voie que Williamson suggère dans son papier, mais rejette, pour deux raisons qui me semblent insuffisantes. Et cette voie, c'est tout simplement de construire le niveau d'itération à l'intérieur même de la théorie de la rationalité. C'est-à-dire de nous dire simplement que la connaissance est insuffisante et que parfois, ce que nous devons, c'est savoir que l'on sait, d'accord ? Plutôt que d'essayer d'avoir une double évaluation, d'une part c'est rationnel, de l'autre on ne sait pas que c'est rationnel, plutôt de dire s'il est rationnel ou pas d'agir sur une proposition, épistémiquement rationnel d'agir sur une proposition, dépend des enjeux. Dans certains cas, le savoir suffit, dans certains cas, il faut savoir que l'on sait, dans d'autres cas, il faut peut-être savoir que l'on sait. Donc, les avantages, j'en vois trois. Déjà, ça ne divise pas le sujet en plusieurs niveaux, parce que le sujet qui saurait que P, mais qui ne sait pas qui c'est, serait rationnel, enfin, il aurait une forme d'impulsion ou de motivation rationnelle au niveau de son premier ordre de croyance. Et d'un autre côté, il serait d'une certaine manière gêné par cette croyance d'ordre supérieur que c'est pas rationnel. Donc, il devrait avoir une forme de conflit. Et là, beaucoup de questions se posent. Pourquoi est-ce qu'il devrait valoriser son secondary belief plutôt que sa belief spontanée ? Pourquoi est-ce qu'un niveau serait normativement meilleur que l'autre ? Donc là, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Donc, si en adoptant une seule norme, on ne divise pas le sujet. Ensuite, je pense que du coup, on simplifie les choses parce qu'on n'a pas à distinguer d'une part une norme épistémique et une norme prudentielle. Et ça rend très naturellement en compte des cas à faible enjeu et fort enjeu. Et rapidement, donc, les objections de Williamson à cette option, donc il la suggère, il dit oui, ce serait naturel de faire ça, mais il dit cependant, the move does not guarantee the epistemic accessibility of appropriateness for the antiluminosity argument is quite general. Donc le problème de Williamson, c'est en fait, je ne veux pas de cette théorie parce qu'en adoptant cette théorie, on ne va pas garantir qu'on sait toujours qu'on est en position épistémique de savoir qu'on sait. Ma réponse est très simple. Cette approche garantit que si on ne sait pas, ou qu'on n'est pas en position de savoir que la prémisse est épistémiquement appropriée lorsqu'elle est épistémiquement appropriée, alors cela ne doit avoir aucun incidence sur nos évaluations normatives. Autrement dit, je rejette juste simplement RNOR, valeur négative. Ce n'est pas vrai qu'il est toujours mauvais de ne pas savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle à faire. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on va rejeter l'option de Williamson qu'on va tomber dans une théorie où la rationalité devrait être lumineuse. D'accord ? La deuxième objection qui semble faire à cette approche, c'est qu'on mixerait de manière étrange les considérations de premier niveau et de deuxième niveau. Donc là, deux remarques. Il semble que c'est plutôt sa position qui, en faisant intervenir différents types de niveaux, complique en fait la situation. La situation, elle peut être expliquée en termes simplement d'un premier niveau relativement à une proposition qui est pas amplement ouverte, qui va une position épistémique qui varie. Et puis, je sais pas. Et puis, c'est pas clair en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème à mélanger ces différences de niveaux? Peut-être on peut faire une bonne théorie qui fait les relations entre ces niveaux. Donc pour conclure, je pense qu'on a, donc on a si on, en, après cette étude rapide des différentes valeurs, on pourrait dire du fait de savoir, d'être en position de savoir que ce qu'on fait est rationnel. Donc je conclus que faire appel au principe d'antiluminosité ne permet pas en fait d'expliquer la différence entre ces cas et qu'on devrait donc rejeter en fait la suffisance de la connaissance. Voilà.